une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr.
Bienvenue au podcast Conflit, bienvenue pour cette série d'été consacrée à la philosophie politique. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver les anciennes sur notre site internet revueconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner ou acheter les numéros anciens et actuellement en kiosque. Notre numéro d'été qui est consacré à l'Afrique de l'Ouest, le péril narco-djihadiste, c'est le thème du dossier, et notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. En vous abonnant, vous contribuez au développement de conflits, vous nous permettez de continuer à vous proposer ce contenu en libre accès sur notre site internet, avec certains textes en libre accès, des vidéos, les podcasts. Vous abonner est donc la meilleure manière de permettre à Conflit de se développer et de vous proposer ces contenus qui, je l'espère, vous conviennent et vous permettent de découvrir un certain nombre d'auteurs variés. Alors justement, à propos de découvertes d'auteurs, celui dont nous allons parler aujourd'hui sera probablement inconnu à la plupart d'entre vous parce qu'il est assez peu connu en France. Mais comme vous allez le voir, il a joué un rôle extrêmement important en philosophie politique. Il s'agit d'Isaiah Berlin. Il est né en 1909 dans ce qui est aujourd'hui la Lettonie. Il est né à Riga, mais en 1909, c'était l'Empire russe. Sa famille a quitté l'Empire russe. Il est lui-même ensuite été en Angleterre, puis aux États-Unis. Il a eu une grande carrière de philosophe, une carrière également de philosophie politique. Il a publié beaucoup d'ouvrages, dont un certain nombre sont publiés et traduits en français, notamment « La liberté et ses traîtres » et « Le sens des réalités » qui a été publié aux Belles Lettres en 2011, qui est un recueil d'articles. Alors pourquoi évoquer Isaiah Berlin ? Bien, c'est d'abord un petit peu dans la continuité de l'émission que nous avons réalisée avec Chantal Delsol sur les auteurs d'Europe centrale. Berlin est letton d'origine, donc il s'y rattache même s'il a fait toute sa carrière en Angleterre et aux États-Unis. Et puis c'est aussi l'occasion d'évoquer un auteur qui a eu une influence importante, mais qui est peu connu en France, et à Conflit nous aimons aussi présenter les débats intellectuels qu'il peut y avoir à l'étranger. Et donc il nous paraissait intéressant d'évoquer cette figure, et vous allez le voir, il a une réflexion, une pensée qui est tout à fait intéressante et qui, je l'espère, vous permettra d'attiser votre réflexion. Alors pour évoquer Isaiah Berlin, je reçois aujourd'hui Damien Tellier. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu au micro de Conflit. Vous êtes professeur de philosophie en lycée à Paris. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont récemment un ouvrage chez Ellipse, La philosophie en 60 livres. Vous avez contribué à plusieurs chapitres, c'est un ouvrage collectif dirigé par Thibaut Grèce que nous avons reçu ici pour une émission sur Hegel. Alors, Isaiah Berlin, j'ai dit un peu dans la présentation, il est peu connu, voire pas du tout connu en France. Pourtant, c'est un auteur important, nous allons essayer de le démontrer. En quelques mots, comment peut-on résumer sa pensée ? C'est toujours complexe de résumer une pensée, surtout de toute une vie, mais en quoi est-il important, intéressant et pourquoi pourrait-on le lire ou quel intérêt un lecteur français a-t-il à lire Isaiah Berlin ?
Alors, il est souvent présenté comme le plus grand historien des idées modernes au XXe siècle. Donc il a fait toute sa vie et toute sa carrière au XXe siècle, mais un peu, c'est-à-dire c'est un contemporain de Raymond Aron, de Hannah Arendt et de Hayek. Mais il est connu dans le monde entier, alors pas beaucoup en France parce qu'il a été peu traduit, mais dans le monde entier, il est connu comme le plus grand historien des idées politiques de l'époque moderne, c'est-à-dire des Lumières au début du XXe siècle. Alors, moi, je dirais que c'est plus que ça. C'est pas seulement un historien des idées, c'est vraiment un philosophe. Alors, il a une manière de philosopher qui n'est pas celle dont on a l'habitude chez nous, en France ou en Allemagne, c'est-à-dire sur le continent. Donc, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, Berlin a fui la révolution russe avec ses parents, la révolution soviétique, Et il est parti, donc il a émigré en Angleterre. Là, il a fait ses études à Oxford. Et puis toute sa vie, en fait, il est resté à Oxford avec des voyages et des périodes aux États-Unis, puisqu'il a enseigné là-bas aussi. Mais il a été vraiment le grand penseur d'Oxford au XXe siècle. Et sa méthode philosophique, c'est une méthode qui est très anglo-saxonne, c'est-à-dire qui consiste essentiellement à clarifier les concepts. C'est pas du tout un créateur de théorie. C'est pas du tout quelqu'un qui va élaborer des nouveaux concepts ou qui va faire un système philosophique. C'est même quelque chose qu'il déteste et on en parlera, c'est très important. Non, c'est quelqu'un qui va creuser, comprendre le sens que les mots ont pu prendre au cours du temps. Et notamment, il y a un deuxième point, je pense aussi, c'est qu'il est convaincu que l'histoire des idées peut éclairer, justement, ces concepts. Parce qu'en fait, tous les auteurs, quand ils développent leur pensée, ils s'appuient toujours sur des présupposés, ils s'appuient sur des prémices qu'ils ont empruntées à d'autres auteurs. Et donc, si on ne reconstruit pas le fil des pensées, eh bien, on ne comprend pas comment on est arrivé à tel ou tel concept.
Sa méthode philosophique, vous l'avez dit, est vraiment particulière et on va y revenir au cours de cette émission. Notamment, on verra en deuxième partie d'émission la manière dont il analyse les Lumières en tant qu'historien des idées politiques. Est-ce que lui aussi, dans sa méthode, il lit les auteurs, il s'appuie sur les auteurs anciens pour décortiquer ces concepts, pour décortiquer les mots qu'ils ont employés?
Oui, alors il lui arrive très souvent de faire référence à l'Antiquité, mais parce que c'est quand même évidemment le substrat de toute la pensée moderne. Hein. Mais cela dit, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans deux grands courants de la pensée moderne, un, les Lumières, et deux, le romantisme. Et justement, le romantisme est une réaction aux Lumières, c'est-à-dire que c'est une opposition aux Lumières qui s'est développée à la fois en Angleterre, en France et en Allemagne. Berlin est quelqu'un qui garde un certain recul par rapport à son objet d'étude, c'est-à-dire que il va lui-même, dans sa propre pensée personnelle, il va piocher des éléments qui appartiennent aux Lumières et des éléments qui appartiennent au romantisme, et à chaque fois, il va rejeter d'autres éléments des Lumières et du romantisme comme étant des éléments qui, selon lui, sont dangereux.
Alors, un des fils rouges, un des fils directeurs de sa pensée, c'est la réflexion sur la liberté, notamment la distinction qu'il fait entre liberté positive et liberté négative.
Alors justement, voilà, là on a un exemple concret de ce qu'est la philosophie analytique telle que lui la pratique, c'est-à-dire qu'il part d'un concept qui est extrêmement flou. Pourquoi ? Parce que le mot « liberté », bah, c'est un mot que tout le monde revendique, que tout le monde utilise. Il suffit d'entendre aujourd'hui, quand on regarde le champ politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, tout le monde revendique la liberté. Marx revendiquait la liberté. John Stuart Mill revendiquait la liberté. Enfin, Rousseau, tous. Alors, pourtant, ils ne pensent pas la même chose, tous ces auteurs. Donc, comment ça se fait et qu'est-ce que ces auteurs mettent derrière ce terme de liberté ? Et c'est là que, en analysant le concept, eh bien, ils voient deux sens très différents. Et quand un auteur parle de liberté politique, il n'entend pas la même chose qu'un autre. Alors, la liberté négative, on va partir du premier sens, c'est celui qui est le plus commun chez les auteurs, on va dire, libéraux, les auteurs des Lumières anglo-françaises. Par exemple, John Stuart Mill, dont j'ai parlé, Benjamin Constant, Tocqueville, ils vont employer le mot « liberté » en ce sens. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté négative ? La liberté négative, elle s'énonce en termes de limite. C'est-à-dire, je suis libre si je ne subis pas l'ingérence d'autrui ou la contrainte extérieure. C'est-à-dire que je suis libre si personne ne m'empêche de faire mes choix. Donc c'est une limite posée à l'action d'autrui, à l'interférence d'autrui sur moi. Ça, c'est la liberté négative. Et donc, elle va, par exemple, en termes de droit, elle va s'exprimer par les droits de faire quelque chose. Droit de propriété, droit de religion, droit d'expression, droit d'association. Enfin, bref, les droits individuels qu'on va retrouver, par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dans le Bill of Rights américain, etc. Mais c'est également aussi ce qu'on retrouve, cette idée de liberté négative, dans le décalogue avec « tu ne tueras point »,« tu ne voleras point ». Et finalement, c'est pour limiter l'interférence et l'ingérence d'autrui. Et ensuite, la liberté positive, elle s'énonce plutôt en termes de capacité. Capacité à se réaliser, à réaliser mes objectifs. En ce sens, un homme est libre s'il a accès à l'éducation, s'il a accès à la santé, s'il a un salaire décent. Et en termes de droit, on parlera de droit à quelque chose, droit au travail, droit au bonheur, droit à l'éducation, droit à la santé, etc. Et là, on voit que quand certains auteurs, par exemple les auteurs socialistes ou les auteurs, beaucoup d'auteurs romantiques aussi, quand ils parlent de la liberté, c'est en ce sens qu'ils en parlent, et pas du tout dans le sens de Tocqueville, Benjamin Constant et John Stuart Mill.
C'est-à-dire que la liberté négative serait une liberté avec des frontières, avec des limites, donc. La liberté positive serait une liberté où la frontière est sans cesse reculée, où la limite est sans cesse reculée, puisque elle dépend du droit, et le droit a une notion extensible. Enfin...
Alors, je dirais des frontières naturelles. C'est-à-dire que pour les libéraux, par exemple, il y a naturellement une frontière entre la vie privée et la vie publique. C'est-à-dire qu'il y a des droits qui nous appartiennent par naissance. Des droits à, par exemple, le droit d'expression, le droit de pouvoir exprimer ses opinions, le droit d'avoir une religion. Ce sont des droits qui nous sont naturels. Donc, ça veut dire qu'il y a une frontière qui sépare l'individu ou même la communauté, la société, de l'État, de la loi. C'est-à-dire que la loi ne peut pas s'immiscer et ne peut pas m'interdire, par exemple, d'exprimer mes opinions. Alors, elle peut m'interdire de taper sur mon voisin ou sur ma femme. Bon, ça, c'est effectivement, c'est ça le rôle de la loi. Mais pas de m'interdire d'exercer mes droits.
Et cette dualité entre liberté positive et liberté négative, vous l'avez dit, il analyse notamment à travers les Lumières, à travers l'héritage des Lumières. Et cette réflexion aussi sur les Lumières et sur le romantisme. Vous l'avez dit également, c'est quelqu'un qui fait probablement un des historiens qui a le plus étudié les Lumières, mais il a une analyse assez particulière des Lumières parce que il y a une certaine réticence, pas dire une opposition, mais une réticence. Mais ce n'est pas un auteur réactionnaire, ce n'est pas une réticence à la Joseph de Maistre ou à la Louis de Bonald avec une opposition farouche à la Révolution. Il va essayer de voir ce qu'il y a de positif dans la Révolution et dans les Lumières, mais aussi en y voyant les germes de ce qui a donné les grands systèmes totalitaires du XXe siècle.
Oui, alors tout à fait. En fait, il voit les Lumières non pas comme un bloc compact, mais comme en fait une diversité de courants. Il y a une diversité de courants au sein des Lumières. On le voit déjà avec ce que je viens de dire sur la liberté positive et la liberté négative. C'est-à-dire deux manières de concevoir la liberté au sein des Lumières. Et puis, dans l'héritage des Lumières, c'est-à-dire dans ceux qui vont par la suite développer des idéaux et des conceptions politiques. Donc on aura des gens qui auront une conception plutôt autoritaire de la liberté, c'est-à-dire pour qui la liberté doit être imposée par le haut, ou l'égalité, c'est-à-dire qui pensent qu'en fait il faut donner le pouvoir à des hommes éclairés, et seuls ces hommes éclairés pourront libérer le peuple de l'ignorance et de la superstition. Et donc, seuls ces hommes éclairés sont en mesure de savoir ce qui est bon pour nous et sont en mesure de nous libérer. Et puis, il y a un autre héritage des Lumières, une autre tradition de pensée au sein des Lumières, celle qui considère que la liberté va consister essentiellement à lutter contre l'État, c'est-à-dire à faire en sorte que l'État reste dans son domaine et ne s'ingère pas en fait dans les affaires, alors que ce soit dans l'économie, mais aussi dans la religion, dans la presse, dans la culture. Enfin, et donc c'est deux façons de concevoir le rôle de l'État. Il y a une façon qui dit bah, l'État, au contraire, doit avoir le maximum de pouvoir, puisque c'est lui seul qui peut nous aider à sortir de l'oppression. Et puis ceux qui pensent, au contraire, que l'État est en lui-même un danger potentiel d'oppression. Donc les Lumières, c'est ambigu, parce que tout le monde, là encore, revendique la liberté et l'égalité, mais pas du tout de la même façon.
Ces hommes éclairés qui veulent façonner la société par un État, est-ce que c'est ce qu'on appelle un constructivisme, une volonté de construire la société selon l'idée que l'on s'en fait?
Oui, c'est ça, d'après la raison. En fait, c'est le rationalisme. Alors, Berlin se reconnaît volontiers rationaliste, mais il ne pense pas que la raison soit toute puissante. Il ne pense pas qu'on puisse tout justifier au nom de la raison, au nom de l'universel. Et de ce point de vue-là, il se reconnaît assez bien aussi dans le romantisme. Parce que, qu'est-ce que c'est que le romantisme ? C'est plutôt justement une critique de la raison, une critique du rationalisme. Alors, qui va tirer dans un sens parfois qui est justement un peu risqué, parce qu'il y aura dans le romantisme aussi une revalorisation de la nation, de la race, du collectif, de la communauté. Et donc là, parfois, évidemment, Berlin a un regard critique aussi, parce que on a soit l'hyper-rationalisme, soit cette espèce d'anti-rationalisme qui peut conduire à des passions nationalistes extrêmement violentes, comme on en a vu au XXe siècle.
Est-ce que la question n'est pas aussi celle de la personne humaine et de la place de la personne dans la société ?
En quel sens ?
Justement, les rapports qu'elle peut avoir avec les autres personnes et le rapport qu'elle a aussi à l'État et la liberté de cette personne de fonder une famille, de pratiquer un culte religieux, de créer une entreprise.
Oui, bien sûr. Alors, il faut quand même bien dire, Berlin n'était pas un libéral au sens économique du terme. C'était pas du tout son propos. Il en a très peu parlé et je pense qu'il connaissait pas grand chose. En revanche, c'est quelqu'un qui était un grand défenseur du pluralisme. Voilà. Défenseur du pluralisme. Donc, il a pas parlé d'économie. Mais en revanche, il était convaincu que il fallait accepter qu'il y ait dans la société une diversité de morale, une diversité de religion, une diversité de valeurs. Et qu'en fait, ces valeurs ne sont pas toutes compatibles entre elles. Hein, si on prend par exemple la liberté et l'égalité, elles ne sont pas compatibles. Et c'est un rêve utopique et naïf de croire qu'on pourra entièrement harmoniser la liberté et l'égalité. On sait bien que non. Hein, quand on donne plus de liberté, il y aura nécessairement moins d'égalité. Et quand on donne plus d'égalité, il y aura nécessairement moins de liberté. Et donc, il y a un équilibre à trouver, mais il y aura toujours une tension, on ne peut pas rêver d'une solution définitive à ces questions. Et c'est là où, justement, il s'oppose à la fois aux fanatiques des Lumières et aux fanatiques nationalistes ou anti-révolutionnaires. Alors, par exemple, vous avez parlé de Joseph de Maistre. Il est très critique. En même temps, il l'admire parce que c'est un grand écrivain et puis que c'était quelqu'un de cohérent dans sa pensée. Mais en effet, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils rêvent d'une solution définitive. Et ils pensent qu'on va pouvoir instaurer une société idéale. Et Berlin n'y croit pas.
Il y a aussi Rousseau, dont il est assez critique, justement, comme principale figure des Lumières.
Oui. Dans son livre que vous avez cité, « La liberté et ses traîtres », il parle de 6 auteurs qui sont soit antérieurs à la Révolution française, soit juste postérieurs. Enfin, c'est 6 auteurs des Lumières. On a Rousseau, on a Helvétius, on a Saint-Simon, on a Hegel, on a Fichte, et le dernier, c'est Joseph de Maistre. Et donc, il y a un chapitre, je crois que c'est le deuxième, sur Rousseau, qui montre bien, en effet, que Rousseau était un nostalgique de l'Antiquité et de la cité antique, d'une liberté qui est entièrement qui n'est pas une liberté individuelle, qui est une liberté entièrement collective, où on sacrifie complètement nos droits individuels à la collectivité, à la volonté générale. Et Rousseau, c'était un peu ça son modèle, et c'est ça qu'il voulait instaurer.
Est-ce qu'il a réfléchi à l'origine des systèmes totalitaires, le communisme, nazisme, fascisme? Est-ce que ça fait partie de sa pensée? Est-ce qu'il a essayé d'expliquer quelles en étaient les origines? Que ça remonte, par exemple, d'après lui, à la philosophie des Lumières?
Oui, alors effectivement, dans le nazisme comme dans le communisme, dans les deux, on a des idées qui sont à l'origine des idées des Lumières, mais qui sont complètement extrémisées. Enfin, le mot est pas joli, mais qui sont rendues folles, en quelque sorte. Des idées, on dit parfois des idées chrétiennes devenues folles, c'est un petit peu ça. Alors, sachant que on sait bien, le nazisme est une réaction au communisme, et donc de toute façon l'un engendre l'autre. Mais si on prend le communisme, on a l'idée de d'égalité, hein, d'ailleurs qui est une idée qu'on peut dire chrétienne, hein, aussi. On a l'idée d'universel qu'on retrouve. On a ce rationalisme aussi constructiviste dont vous avez parlé. Et puis tout ça est combiné avec l'idée d'une nécessité historique. Et là, il a beaucoup parlé de ça, Isaiah Berlin, la nécessité historique. C'est-à-dire la croyance que les choses se déroulent, enfin que l'histoire se déroule d'une façon nécessaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit de la liberté humaine et des choix individuels, mais d'une espèce de mécanique qui nous dépasse, et que donc, si on a une science de l'histoire, si on possède une science de l'histoire, eh bien, on peut connaître déjà le sens de l'histoire, on peut connaître l'avenir, ce qui va se passer, et il n'y a plus qu'à ensuite accompagner ce mouvement.
Et finalement, on ne peut rien y faire. C'est le sens de l'histoire, donc...
On peut l'accélérer. C'était ça que voulait Marx, hein, avec la Révolution. C'était accélérer l'histoire. Et c'était là hâter l'avènement de ce paradis sur Terre qui est le communisme.
En vous écoutant, je pense à un autre auteur contemporain également, qui est Hannah Arendt. Elle aussi a beaucoup réfléchi à cette question de totalitarisme. Est-ce que les deux ont eu des correspondances? Est-ce qu'ils ont travaillé peut-être de concert sur certains éléments?
Je pense qu'il y a des points communs, parce que, en effet, la grande idée d'Anna Arendt, c'est que les régimes totalitaires ne sont possibles que sur que si ces régimes parviennent à supprimer la liberté de penser, ou en tout cas la capacité à penser. C'est-à-dire que comment on transforme des individus en une espèce de masse informe qui est manipulable et qu'on peut soumettre, eh bien, c'est en tuant dans l'individu sa capacité à penser. Et donc, sa capacité à exercer un jugement. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle voit chez Eichmann. Eichmann, dans son livre Eichmann à Jérusalem, elle voit un homme qui ne pense pas, qui ne pense plus, et qui a pu donc être une espèce de rouage extrêmement efficace dans l'administration nazie, parce qu'il ne pensait pas. Et parce qu'il n'était qu'une machine à exécuter des ordres sans réflexion morale. Donc, si on tue la capacité à penser, on peut instaurer n'importe quel pouvoir autoritaire. Et bon, de ce point de vue-là, oui, entre Berlin et Hannah Arendt, évidemment, il y a une grande affinité.
C'est une sorte de soumission à l'autorité, finalement, d'abdication de la liberté.
Oui, oui, exactement, c'est ça, tout à fait. C'est quelque chose qui a été très bien étudié, d'ailleurs, par Stanley Milgram, dans son livre « Soumission à l'autorité », d'une façon assez pragmatique, parce qu'il a fait des expériences de soumission à l'autorité, mais il se rend compte qu'en effet, les hommes, les humains, ont une propension à se soumettre et à ne pas penser. Pourquoi ? Parce que penser... c'est difficile. Penser, c'est douloureux. C'est hésiter, c'est douter. Et les hommes n'aiment pas ça. Notre cerveau peut-être est fait comme ça, mais nous n'aimons pas le doute. Et nous avons besoin de réponses rapides et d'actions. Et malheureusement, souvent, on va préférer se soumettre à des idéologies plutôt que de penser par nous-mêmes. Et on va aussi avoir besoin d'être intégré dans un groupe plutôt que de se marginaliser en essayant d'avoir une opinion critique.
C'est que se soumettre est aussi extrêmement confortable, puisqu'on n'est plus responsable.
Exactement.
Et on suit le mouvement, donc on n'a plus de problème de confiance.
Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que la liberté, tout le monde la revendique, mais personne ne l'aime vraiment, parce que être libre, c'est prendre des responsabilités, c'est faire des choix, mais en assumer les conséquences, et ça, c'est totalement, ça va contre notre penchant à la paresse et ça demande beaucoup de courage.
Est-ce qu'il y a une réflexion sur la place de la morale ou sur l'origine de la morale, c'est-à-dire que des éléments intangibles qui vont fixer une société, qui vont être respectés, évoquer la liberté positive et la liberté négative. Voilà, est-ce que pour lui, il y a dans la société des sortes de masses de granit qui sont intangibles, auxquelles il faut se conformer.
Je crois que justement ces fameux droits individuels, qui sont les droits fondamentaux, qui sont inhérents à la nature humaine, c'est pour ça qu'on les dit naturels, pour Isaiah Berlin, oui, il ne fait aucun doute que ces droits sont... de même que, on pourrait dire, la capacité de l'homme à rechercher la vérité et donc cette aspiration fondamentale de l'homme à être libre. Je crois que pour lui, c'est ça le socle. Maintenant, il est conscient qu'il y a nécessairement une diversité de morale. On ne peut pas mettre d'accord tous les humains sur une morale unique. C'est une utopie qui est une utopie extrêmement dangereuse. Donc il y aura toujours des morales incompatibles entre elles et il ne faut pas rêver à les harmoniser un jour.
Dernière question, Damien Tellier. Est-ce que Isaiah Berlin, alors, est peu connu en France et peut-être que nos auditeurs ont eu comme ça l'occasion de découvrir ce penseur important. Il a eu une postérité, vous avez dit, bon, Hannah Arendt, Raymond Aron aussi, ils ont été contemporains. Est-ce que c'est une œuvre qui a été reprise ou qui est aujourd'hui irrigue certains penseurs contemporains?
Alors, je crois qu'il il est très connu dans le monde anglo-saxon, donc très cité. Il y a beaucoup, beaucoup de références à Isaiah Berlin. En France, je voudrais quand même citer, il y a un universitaire qui a écrit une très belle thèse qui s'appelle Alexis Butin et qui donc est un spécialiste. Mais en France, c'est malheureusement, je crois, un des seuls. Enfin bon, il y en a certainement d'autres, mais disons qu'il y a très, très peu d'études. Alors, pour autant, ben voilà, c'est un champ un peu ouvert hein, pour des jeunes qui voudraient faire une thèse en histoire ou en philosophie. Moi, je les encourage à aller voir du côté de Berlin.
Merci beaucoup, Damien Tellier. Je rappelle le titre d'un ouvrage récent que vous avez publié, La philosophie en 60 livres, paru chez Ellipse. Les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner. En vous abonnant, encore une fois, vous soutenez Conflit et vous nous permettez de nous développer et de vous proposer ce contenu qui en accès libre. Et puis, vous pouvez également, en vous abonnant, accéder à tout le contenu réservé aux abonnés, notamment nos échanges avec les centres de recherche à l'étranger, les traductions d'articles, des interventions d'auteurs étrangers, ce qu'on a essayé de faire un petit peu avec cette émission, c'est-à-dire vous présenter des auteurs dont on ne parle pas en France, mais qui sont connus et reconnus à l'extérieur de nos frontières, parce que la géopolitique ne s'arrête pas, bien évidemment, aux frontières de la France. Et donc, c'est une manière de vous faire connaître les débats intellectuels qu'il peut y avoir à l'étranger. Et ça nous paraît extrêmement important de vous présenter cela. Et puis, actuellement en kiosque, notre numéro, dont le dossier est consacré à l'Afrique de l'Ouest et au péril narco-djihadiste. Et puis, notre hors-série géopolitique de la santé, que vous pouvez retrouver en kiosque tout au long de l'été et également en format numérique et papier sur notre site internet. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission de cette série d'été consacrée à la philosophie politique.